Chapitre 20. Commission d'enquête. Une fois de plus, debout au sommet de la falaise, Hercule Poirot contemplait les rochers en contrebas sur lesquels venaient se fracasser les vagues. Là, à l'endroit même où il se tenait, avaient été découverts les corps d'un mari et de sa femme. Là, 3 semaines avant cette découverte, une somnambule s'était tuée en basculant dans le vide. Pourquoi tout cela est-il arrivé? Telle avait été la question du superintendant Garroway. Pourquoi? Qu'est-ce qui avait bien pu déclencher ces drames? D'abord un accident, et 3 semaines plus tard, un double suicide. Au loin s'étend l'ombre portée des péchés de jadis. Quel était ce péché de jadis dont l'ombre, des années plus tard, avait mené à cette fin tragique? Plusieurs personnes devaient se retrouver ce jour-là. Un jeune homme et une jeune fille qui recherchaient la vérité, et 2 personnes qui connaissaient cette vérité. Hercule Poirot se détourna de la mer et rebroussa chemin sur l'étroit sentier menant à une maison autrefois nommée Overcliff. Ce n'était pas très loin. Il aperçut des voitures garées le long d'un mur. Il vit la silhouette d'une maison se découpant sur le ciel. Une maison visiblement inoccupée, et qui avait besoin d'être repeinte. L'écriteau d'un agent immobilier était accroché là, annonçant que cette résidence de charme était à vendre. Au portail, le nom Overcliff était barré d'un trait et remplacé par Downhouse. Le détective s'avança à la rencontre de 2 personnes qui marchaient dans sa direction. L'une était Celia Ravenscroft, l'autre Desmond Burton Cox. « L'agent immobilier m'a envoyé un avis, » annonça Desmond, « disant qu'il fallait que nous allions voir la maison. J'ai pris la clé pour le cas où nous aurions besoin d'entrer. Elle a changé 2 fois de propriétaire ces 5 dernières années. Il ne doit pas rester grand-chose à y voir, n'est-ce pas ?»«
Je ne pense pas, non, » ajouta Celia. « Cette maison a déjà appartenu à un tas de gens, finalement. Les premiers qui l'ont achetée étaient des gens du nom d'Archer. Ensuite, ça a été une famille qui s'appelait Fallowfield, il me semble. » Il disait que c'était trop à l'écart, et voilà maintenant que les derniers venus vendent à leur tour. Peut-être tous ces gens ont-ils peur des fantômes?
Tu crois vraiment aux maisons hantées? Demanda Desmond.
Oh, pas vraiment, bien sûr, répondit Celia. Mais ça pourrait quand même être ici le cas.
C'est vrai, non? Avec tout ce qui s'y est passé.
Je ne suis pas de cet avis, déclara Poirot. Il y a eu ici chagrin et mort, mais aussi, et plus que tout, amour.
Un taxi apparut sur la route.
« Ce doit être Madame Oliver, je pense, » dit Celia. « Elle m'avait prévenu qu'elle viendrait par le train, puis qu'elle se ferait amener de la gare en taxi. »
2 femmes descendirent de voiture. L'une était Madame Oliver, mais une grande femme élégamment vêtue l'accompagnait. Poirot, au courant de la venue de cette dernière, ne fut pas surpris. Mais il observa Celia, pour voir si elle manifestait la moindre réaction.
« Oh !»
La jeune fille s'élança vers la nouvelle arrivante, le visage illuminé.
« Zélie » s'écria-t-elle. « C'est bien Zélie ? » ?»« C'est vraiment Zélie ! Oh, que je suis contente ! Je ne savais pas que vous veniez. »
« Monsieur Hercule Poirot m'a demandé d'être présente. »
« Je comprends, » répondit Celia.
« Oui. »
« Oui, il me semble que je comprends. Mais je ne... »
Elle se figea, tourna la tête et regarda le beau jeune homme qui se tenait à son côté.
« Desmond, c'est toi ? C'est toi qui... »
« Oui, j'ai écrit à Mademoiselle Moura. »«
À Zélie, si je peux continuer à l'appeler comme ça. »«
Vous pouvez m'appeler Zélie aussi longtemps que vous le voudrez, tous les deux, » répondit Mademoiselle Moura. « Je n'étais pas sûr d'avoir envie de venir. Je ne savais pas s'il était sage de le faire. Je ne le sais d'ailleurs toujours pas, mais je l'espère. »
« J'ai besoin de savoir, » expliqua Celia. « Desmond et moi avons tous les deux besoin de savoir.
Il s'est dit que vous pourriez peut-être nous apprendre quelque chose. »«
Monsieur Poirot est venu me voir, » reprit Zélie. « Il m'a convaincu de venir aujourd'hui. »
Celia passa le bras sous celui de Madame Oliver.
« Je tenais à ce que vous soyez aussi présente, parce que c'est vous qui avez lancé tout ça et qui avez fait intervenir Monsieur Poirot, n'est-ce pas ?»
Poirot esquissa un sourire.
C'est également votre marraine qui a mis en branle toute la cohorte de ses éléphants.
« Vos éléphants ?» s'exclama Mademoiselle Zélie.
« C'est ainsi qu'elle nommait la foule de ses informateurs, » confirma Poirot.
« Les éléphants n'oublient rien, » expliqua Madame Oliver. « C'est à partir de ce proverbe que j'ai commencé mes plongées dans le passé. » J'ai transmis à Monsieur Poirot beaucoup de ragots, de racontars, de renseignements, vrais ou faux, que j'ai glanés auprès de vieillards plus ou moins séniles, et lui a établi un genre de... Ma foi, s'il était médecin, j'appellerais ça un genre de diagnostic, j'imagine.
J'ai dressé une liste, expliqua Poirot. Une liste des éléments qui semblent tendre vers la vérité sur ce qui s'est passé toutes ces années durant. Cette liste, je vais vous la détailler, afin de vérifier si, pour vous que le drame a concerné, elle a, oui ou non, une signification.
« Il faut qu'on sache, » enchaîna Célia. « Était-ce un suicide? Était-ce un meurtre? Quelqu'un venu de l'extérieur a-t-il tué mon père et ma mère? Les a-t-il abattus pour une raison, un mobile que nous ignorons? » Je me poserai toujours la question. La réponse ne doit pas être facile, mais...
« Nous allons rester dehors, je pense, » coupa Poirot. « D'autres gens ont vécu dans cette maison. L'atmosphère ne peut plus y être la même. Nous n'y entrerons que si l'envie nous en prend lorsque la commission d'enquête que nous allons tenir sera terminée. »«
Ce sera donc une commission d'enquête ?» releva Desmond.
« Oui, une étude aussi approfondie que possible sur ce qui s'est passé jadis. »
Poirot se dirigea vers quelques chaises en fer forgé disposées à l'abri d'un grand magnolia près de la maison. Il tira de sa mallette un feuillet de papier couvert d'une fine écriture. Il demanda à Célia
« Ainsi donc, pour vous, c'est forcément comme ça,
l'un ou l'autre,
suicide ou meurtre ?»«
L'un des deux doit correspondre à la réalité, » répondit-elle.
« Je vais vous dire, les deux solutions sont vraies. » Mais ce ne sont pas les seuls. D'après ce que je crois, nous n'avons pas seulement affaire à un meurtre ainsi qu'à un suicide, mais aussi à ce que j'appellerais une exécution, et en outre, un drame. Le drame de deux personnes qui s'aimaient et qui moururent de cet amour. Les drames d'amour ne sont pas toujours l'apanage des Roméo et des Juliette. Ce ne sont pas nécessairement les jeunes gens qui endurent les affres de l'amour, qui sont prêts à mourir pour leur amour. Non. C'est plus compliqué qu'il n'y paraît.
« Je ne comprends pas, » dit Célia.
« Pas encore. »«
Je finirai donc par comprendre, » reprit-elle.
« Je crois que oui, » répondit Poirot. « Je vais vous dire ce qu'à mon avis s'est passé, et je vous expliquerai comment j'en suis arrivé à me forger cet avis. La première chose qui m'a frappé, ce sont les détails restés inexpliqués dans la quantité d'éléments que la police recueillit à l'époque. » C'est ainsi, par exemple, qu'au nombre des effets de feu Margaret Ravenscroft figuraient 4 perruques.
Le détective répéta avec emphase.
« 4 perruques !»
Il regarda Zélie. « Lady Ravenscroft n'en portait pas continuellement, » enchaîna cette dernière. « Seulement de temps à autre, en voyage ou quand elle rentrait du dehors très ébouriffée et voulait être prête rapidement. » Ou parfois, elle en mettait une, appropriée au grand soir.
« En effet, » reprit Poirot, « c'était assez à la mode à cette époque. »
D'habitude, les femmes en avaient à la rigueur une ou deux, mais Lady Ravenscroft en avait 4 en sa possession. 4 perruques, cela m'a paru beaucoup. Je me suis demandé pourquoi il lui en fallait 4.
D'après la police à qui je posais la question, ce n'était pas en raison d'une quelconque tendance à la calvitie. Lady Ravenscroft avait une chevelure en bonne santé, comme on en voit d'ordinaire aux femmes de cet âge. Tout de même, je me suis posé des questions sur ses perruques. L'une avait des reflets gris, ai-je appris plus tard. C'est la coiffeuse de Lady Ravenscroft qui m'a précisé cela. Une autre formait un casque de petites boucles. Cette dernière était celle que portait Lady Ravenscroft le jour de sa mort.
« Cela a-t-il une quelconque importance ?» demanda Célia. « Elle aurait pu porter n'importe laquelle. »«
Elle aurait pu. »
J'ai également appris que, d'après les déclarations de la gouvernante à la police, Lady Ravenscroft avait porté cette perruque précise quasiment en permanence au cours des quelques dernières semaines qui précédèrent sa mort. C'était sa perruque favorite, semblait-il.
Je ne vois pas. Il y a également eu ce dicton que le superintendant Garroway m'a cité. Même bonhomme, autre casquette. Cela m'a furieusement donné à réfléchir. Je ne vois toujours pas, répéta Célia. Il y a eu de surcroît, poursuivit Poirot, le détail du chien. Le chien? Mais qu'a fait le chien? Le chien a mordu Lady Ravenscroft. Le chien était, paraît-il, très attaché à sa maîtresse. Pourtant, au cours des quelques dernières semaines de vie de cette dernière, l'animal s'est retourné contre elle à plusieurs reprises et l'a mordu assez gravement. Vous voulez dire qu'il sentait qu'elle allait se suicider? Desmond, les yeux ronds, fixait le détective. Non, bien plus simple que cela. Non, reprit Poirot. Le chien savait ce que personne d'autre ne semblait savoir. Il savait que cette femme-là n'était pas sa maîtresse. Elle ressemblait à sa maîtresse. En outre, la gouvernante, qui était légèrement aveugle et sourde, a vu une femme portant les vêtements de Molly Ravenscroft ainsi que la plus reconnaissable des perruques de Molly Ravenscroft, celle aux petites boucles en casque. Cette gouvernante indiqua que sa maîtresse ne s'était pas comportée comme à l'accoutumée les dernières semaines de sa vie. « Même bonhomme, autre casquette », selon la formule de Garroway. Alors l'idée, la conviction, m'est venue. Même perruque, autre femme. Le chien savait. Savait parce que son flair le lui avait révélé. Une autre femme, pas celle qu'il aimait, mais bien au contraire une femme qu'il n'aimait pas et même qu'il craignait. J'ai alors pensé, supposons que cette femme n'ait pas été Molly Ravenscroft. De qui pouvait-il bien s'agir? Se pouvait-il qu'il s'agisse de Dolly, la sœur jumelle? Mais c'est impossible, riposta Célia. Non, ce n'était pas impossible. N'oubliez pas qu'elles étaient jumelles. Je dois maintenant en venir aux détails que Madame Oliver a soumis à mon attention. Selon certains de ces éléphants, Lady Ravenscroft avait, peu avant le drame, séjourné dans un hôpital où on lui aurait révélé qu'elle souffrait d'un cancer. Vérification faite, et tout à fait entre nous, les comptes rendus médicaux allaient à l'encontre de cette hypothèse. J'ai ensuite peu à peu appris l'histoire passée de Lady Ravenscroft et de sa sœur, qui, comme le font les jumeaux, se vouaient une très tendre affection, se comportaient à l'identique, s'habillaient à l'identique, auquel il arrivait apparemment les mêmes choses, qui avaient eu les mêmes maladies au même moment, s'étaient mariées à peu près en même temps ou à peu d'intervalle. Et qui, en fin de compte, comme bien des jumeaux le font, au lieu de souhaiter tout faire à l'identique et de la même façon, souhaitèrent brusquement faire le contraire l'une de l'autre, être aussi différentes l'une de l'autre que possible. Un certain degré de rancœur alla jusqu'à s'établir entre elles, et même bien davantage. Il y avait eu par le passé une raison à cela. Jeune homme, Alistair Ravenscroft s'était épris de Dorothea Preston Gray. Mais ses sentiments ne tardèrent pas à se reporter sur l'autre sœur, Margaret, qu'il épousa. S'en suivit une jalousie, sans nul doute, qui creusa un écart entre les deux jeunes femmes. Margaret resta à tous égards profondément attachée à sa jumelle, mais Dorothea, elle, n'était plus du tout attachée à Margaret. Cela, me semble-t-il, explique quantité de choses. Dorothea était un personnage tragique. Sans qu'elle en soit le moins du monde responsable, un problème de gêne, un possible accident à la naissance, quelques caractéristiques héréditaires l'avaient faite à tout jamais mentalement instable. Très tôt, pour une raison qui n'a jamais été tirée au clair, elle conçut de la répugnance à l'égard des enfants. Tout porte à croire qu'un enfant trouva la mort par la faute de Dolly. Les preuves n'étaient pas formelles, mais elles étaient suffisamment cependant pour qu'un médecin préconise un traitement psychiatrique, si bien qu'elle fut soignée pendant quelques années dans un établissement adapté. Quand les médecins la déclarèrent guérie, elle reprit une existence normale, séjournant souvent chez sa sœur et partant même rejoindre les Ravenscroft en Malaisie, à une époque où ils y étaient affectés. Là, une nouvelle fois, un accident se produisit. L'enfant d'un voisin. Et là encore, bien qu'il n'y ait pas eu de preuves formelles, il semble que Dorothea ait à nouveau pu être responsable du drame.
Le général Ravenscroft rapatria sa belle-sœur en Angleterre, où elle fut à nouveau internée pour suivre un traitement. Une fois de plus, elle sembla guérie, et au terme de soins psychiatriques, on déclara à nouveau qu'elle pouvait repartir et reprendre une existence normale. Margaret crut cette fois que tout irait bien, et se dit qu'il fallait que sa sœur vienne s'installer chez eux pour qu'il soit possible de guetter attentivement le moindre indice de nouveaux déséquilibres mentaux éventuels. Je ne suis pas persuadé que le général Ravenscroft ait approuvé. Je crois qu'il était fermement convaincu que, tout comme quelqu'un peut venir au monde difforme, infirme ou handicapé d'une quelconque manière, sa belle-sœur était atteinte d'une difformité mentale ressurgissant de temps à autre, si bien qu'il fallait exercer sur elle une surveillance de tous les instants afin de la tirer de ses propres griffes, s'il advenait qu'un nouveau drame se produise. « Êtes-vous en train de prétendre, s'impatienta Desmond, que c'est elle qui aurait abattu le général et Lady Ravenscroft ?»«
Non, répondit Poirot, ce n'est pas la solution à laquelle je pense. »
Ce qui s'est selon moi passé, c'est que Dorothea a tué sa sœur Margaret. Un jour qu'elles se promenaient ensemble sur la falaise, Dorothea a poussé Margaret dans le vide. La haine et la rancune latente qu'elle éprouvait pour cette sœur si semblable à elle, et pourtant équilibrée et bien portante, furent soudain trop fortes. Haine, jalousie, désir de meurtre, tout cela était brusquement remonté à la surface et avait pris possession de Dorothea. Et cela, je crois qu'il y a eu une personne extérieure à la famille qui l'a compris, une personne qui se trouvait là quand ce premier drame s'est produit. Je crois que vous, vous l'avez compris, mademoiselle Zélie.
En effet, confirma Zélie Moura, je l'ai immédiatement compris. J'étais là. Les Ravenscroft se faisaient du souci pour elle. C'est à cette époque qu'ils l'ont vu essayer d'agresser leur petit garçon, Edward. Edward est retourné à l'école, puis j'ai organisé le départ de Célia pour mon pensionnat, tout en restant ici. Une fois les enfants partis et la maison vide, exception faite du général Ravenscroft, de Dorothea, de Margaret et de moi-même, plus personne ne craignait apparemment rien. Et puis voilà qu'un jour, le pire est quand même arrivé. Les deux sœurs sont sorties ensemble. Dolly est rentrée seule. Elle avait l'air très bizarre, très agitée. Elle est entrée et s'est assise à table pour le thé. C'est alors que le général a remarqué qu'elle avait la main droite couverte de sang. Il lui a demandé si elle était tombée. Elle a répondu « Oh non, ce n'est rien, rien du tout. Je me suis égratignée en passant près d'un rosier. » Or, il n'y a pas de rosier sur les Downs. C'était une réponse complètement incongrue, ce qui nous a inquiétés. Elle aurait parlé de genêt que nous aurions pu accepter sa réponse. Le général est donc sorti et je l'ai suivi. Tout en marchant, il ne cessait de répéter « Il est arrivé quelque chose à Margaret. Je suis sûr qu'il est arrivé quelque chose à Molly. » Nous l'avons trouvée sur un replat, en contrebas du sommet de la falaise. Elle avait été frappée avec une grosse pierre et lapidée. Elle n'était pas morte, mais avait perdu beaucoup de sang. Pendant un instant, nous nous sommes vraiment demandé ce qu'il fallait faire. Nous n'osions pas la déplacer. Il fallait aller chercher un médecin, nous l'avions compris tout de suite. Mais avant que nous en ayons eu le temps, Lady Ravenscroft s'est agrippée à son mari. D'une voix entrecoupée, elle lui a dit « Oui, c'est Dolly, en effet. Elle ne savait plus ce qu'elle faisait. Elle ne savait plus, Alistair. Fais en sorte qu'elle n'en souffre pas. » Elle n'a jamais su ce qu'elle faisait, ni pourquoi. Elle ne peut pas se contenir. Elle n'a jamais été capable de le faire. Promets-moi, Alistair, je crois que je suis en train de mourir. Non, non, on n'a plus le temps d'aller chercher un médecin. D'ailleurs, un médecin n'y pourrait rien. J'ai perdu beaucoup de sang. Ma fin est toute proche, je le sais. Mais promets-moi que tu la sauveras. Promets-moi que tu ne laisseras pas la police l'arrêter. Promets-moi qu'on ne l'accusera pas de m'avoir assassiné, qu'on ne l'enfermera pas à vie comme criminel. Cache-moi quelque part pour que nul ne découvre mon corps. Je t'en prie, je t'en supplie. C'est la dernière chose que je te demande.
à toi que j'aime plus que tout au monde. Si je pouvais survivre pour toi, je le ferais. Mais je vais mourir. Je le sens. Je me suis traîné un peu à l'écart, mais c'est tout ce que j'ai pu faire. Promets-moi. Et vous aussi, Zélie, vous, qui m'aimez également, je le sais, vous m'avez toujours aimé, aidé, accompagné. Et vous aimiez les enfants, eux aussi. Il faut sauver Dolly. Il faut sauver la pauvre Dolly. Je vous en prie. Ah, au nom de tout l'amour qui existe entre nous. Sauvez Dolly. Oh.
Et ensuite, reprit Poirot, qu'avez-vous fait? Il me semble qu'à vous deux, d'une certaine manière, vous avez dû...
Oui. Elle est morte, vous savez. Elle est morte quelques 10 minutes après avoir prononcé ses derniers mots. Alors j'ai aidé le général. Je l'ai aidé à cacher le corps de Molly dans un endroit situé un peu plus loin, le long de la falaise. Nous l'avons transporté jusque-là. Comme il y avait des rocs, de grosses pierres et des cailloux, nous avons recouvert son corps de notre mieux. Aucun sentier, aucun chemin ne permettait vraiment d'accéder à cet endroit. Il fallait passer à quatre pattes. Nous l'avons déposé là. Alistair ne cessait de répéter « Je le lui ai promis, je dois tenir parole. Je ne sais pas comment faire. » Je ne sais pas si quiconque pourra la sauver, je ne sais pas. Mais, et ma foi, nous y avons réussi. Dolly était à la maison. Elle était effrayée, terrifiée, et elle manifestait en même temps une sorte de satisfaction horrible. Elle disait, « J'ai toujours su. Je savais depuis des années que Molly était vraiment mauvaise. Elle t'a arraché à moi, Alistair. Tu étais à moi, mais elle t'a arraché à moi. Elle t'a obligé à l'épouser. Je l'ai toujours su. Mais j'ai peur à présent. Qu'est-ce qu'on va me faire? Qu'est-ce qu'on va dire? Je ne supporterai pas d'être à nouveau enfermé. Je ne le supporterai pas. Non, je deviendrai folle. Ne les laisse pas m'enfermer. On va m'emmener et dire que je suis coupable d'un meurtre. Ce n'était pas un meurtre. Je devais faire ça, voilà tout. Il y a des choses que je dois faire parfois. Il fallait que je voie du sang, tu sais. Je n'ai pas pu attendre de voir Molly mourir. Je me suis enfui. Je savais qu'elle allait mourir. J'espérais simplement que vous ne la trouveriez pas. Elle est tombée de la falaise, tout simplement. Les gens vont dire que c'était un accident.
C'est une histoire horrible, balbutia Desmond.
En effet, mon chéri Célia, c'est une histoire horrible, mais il vaut mieux savoir. Il vaut mieux savoir, n'est-ce pas? Je n'arrive même pas à éprouver de la pitié pour elle. Pour ma mère, je veux dire, je sais qu'elle était douce. Je sais qu'il n'y avait pas le moindre soupçon de méchanceté en elle. Elle était viscéralement bonne. Et je sais, je comprends pourquoi mon père n'a pas voulu épouser Dolly. Il a préféré épouser ma mère parce qu'il l'aimait, parce qu'il avait déjà découvert à l'époque qu'il y avait chez Dolly quelque chose de détraqué, quelque chose de mauvais, de retors. Mais ensuite, comment? Comment vous y êtes-vous pris?
Nous avons beaucoup menti, répondit Zélie. Nous espérions que personne ne retrouverait le corps, si bien que plus tard, nous pourrions peut-être le transporter de nuit, par exemple, jusqu'à un endroit où on puisse penser qu'elle était tombée à la mer. Puis... nous avons imaginé cette histoire de somnambulisme. La marche à suivre était pour nous toute simple. Alistair a dit « C'est terrifiant, vous savez. » Mais j'ai promis. J'en ai fait serment à Molly alors qu'elle agonisait. J'ai juré de faire ce qu'elle demandait. Or, il y a un moyen envisageable de sauver Dolly, à condition qu'elle parvienne à jouer son rôle. Je ne sais pas si elle en est capable. « Quel rôle ? » ai-je demandé. Et Alistair a répondu « Prendre la place de Molly et faire comme si c'était Dorothea qui était tombée dans le vide au cours d'une crise de somnambulisme. » Nous avons réussi. Nous avons emmené Dolly dans une chaumière inhabitée que nous connaissions, où je suis resté quelques jours avec elle.
Alistair a dit que Molly avait été hospitalisée en état de choc après avoir appris que sa sœur était tombée de la falaise pendant une crise de somnambulisme. Puis nous avons ramené Dolly, en la faisant passer pour Molly, portant les vêtements de Molly et la perruque de Molly. J'ai fait faire deux perruques supplémentaires, le modèle aux boucles qui lui changeait vraiment la physionomie. Cette chère Janet, la vieille gouvernante, n'y voyait pas très bien. Dolly et Molly se ressemblaient vraiment, vous savez, et leurs voix étaient quasiment semblables. Tout le monde accepta sans difficulté qu'il s'agissait de Molly. Molly se comportant de façon assez bizarre de temps à autre, par suite du choc qu'elle avait subi. Tout avait l'air parfaitement normal. C'est bien ce qu'il y avait de plus terrible là-dedans. « Mais comment a-t-elle pu s'en sortir ?» demanda Celia. « Ça devait être affreusement difficile. » « Non, elle n'a pas trouvé ça difficile. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait, voyez-vous, ce qu'elle avait toujours voulu. Elle avait Alistair. Mais lui, comment pouvait-il supporter ça ?» Il m'a expliqué pourquoi et comment, le jour où il a pris les dispositions nécessaires pour que je rentre en Suisse. Il m'a expliqué ce que moi je devais faire, puis il m'a expliqué ce que lui allait faire. Il m'a dit « Il ne me reste plus qu'une chose à faire. J'ai promis à Margaret que je ne livrerai pas Dolly à la police, que nul ne viendrait à apprendre qu'elle était l'auteur d'un meurtre, que les enfants ne sauraient pas que leur tante avait commis un meurtre. Nul ne doit jamais savoir que Dolly a commis un meurtre. Pendant une crise de somnambulisme, elle est tombée de la falaise. Un triste accident. Et elle sera enterrée ici, à l'église, sous son propre nom. « Comment pouvez-vous tolérer ça ?» demandai-je. Personnellement, je ne pouvais pas supporter cette idée. Il répondit « Je le tolère au nom de ce que je vais faire, et de cela il faut maintenant que je vous parle. Voyez-vous, dit-il, Dolly doit cesser de vivre. Si elle côtoie des enfants, elle commettra d'autres agressions fatales. La pauvre femme n'est pas taillée pour vivre. Mais comprenez bien, Zélie, que ce que je vais faire, je dois le payer de ma propre vie, moi aussi. Je vais vivre ici paisiblement aux côtés de Dolly, se faisant passer pour ma femme. Et ensuite, se produira un autre drame. » Je ne compris pas ce qu'il entendait par là. Un autre accident? Une nouvelle crise de somnambulisme? Mais il répondit, non. Ce qui se saura, c'est que Molly et moi nous serons tous les deux suicidés. Je ne pense pas que quiconque sache jamais pourquoi. On estimera peut-être que notre geste était dû au fait que ma femme se croyait atteinte d'un cancer, ou que moi, je l'en croyais atteinte. Toutes sortes d'hypothèses seront sans doute envisagées. Mais comprenez-moi, il faut que vous m'aidiez, Zélie. Vous êtes la seule personne qui m'aime suffisamment, qui aime suffisamment Molly et les enfants aussi. Si Dolly doit mourir, il n'y a que moi qui puisse commettre le geste. Elle n'aura ni peur ni mal. Je la battrai par balle, puis je me supprimerai moi-même. Ses empreintes figureront sur le revolver, étant donné qu'elle l'a manipulé il y a peu, et les miennes y seront aussi. Justice doit être faite, et il faut que j'en sois l'exécuteur. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que je les aimais, toutes les deux, et que je les aime encore. Molly, plus que ma propre existence. Dolly, parce que je la plains vraiment du sort que la vie lui a attribué à la naissance. Et il ajouta, « N'oubliez jamais ça. » Zélie se leva et s'avança vers Celia. « À présent, vous connaissez la vérité, dit-elle. J'ai promis à votre père que vous ne sauriez pas, et j'ai rompu ma promesse. Il n'a jamais été dans mon intention de révéler tout cela, ni à vous, ni à qui que ce soit d'autre. Monsieur Poirot m'a fait changer de point de vue. Cela dit, c'est une histoire si horrible. Je comprends ce que vous ressentez, assura Celia. Peut-être votre point de vue était-il le bon, mais je suis contente de savoir, car j'ai l'impression qu'un grand poids vient de m'être ôté des épaules. Et parce qu'à présent, ajouta Desmond, nous savons tous les deux
et c'est une chose que nous ne regretterons jamais de savoir. Ça a vraiment été un drame. Comme le dit M. Poirot ici présent, ça a véritablement été le drame de deux personnes qui s'aimaient, mais qui ne se sont pas assassinées l'une l'autre parce qu'elles s'aimaient. L'une fut assassinée et l'autre exécutée en tant qu'assassin, par égard pour l'humanité et dans le but d'épargner d'autres vies d'enfants. On peut pardonner au général s'il s'est trompé, mais je ne crois pas qu'il se soit réellement trompé. Dolly a toujours été effrayante, enchaîna Célia. Même petite, j'avais peur d'elle sans savoir pourquoi. À présent, je sais pourquoi. Je trouve mon père courageux d'avoir fait ce qu'il a fait. Il a respecté ce que ma mère lui avait demandé, ce qu'elle l'avait supplié de faire alors qu'elle rendait son dernier soupir. Il a sauvé sa sœur jumelle, que ma mère avait, je crois, toujours tendrement aimée. J'ai plaisir à penser, oh, ça semble idiot de ma part. La jeune fille adressa un regard hésitant à Poirot. Vous ne serez peut-être pas du même avis. Je suppose que vous êtes catholique, mais cette inscription qui figure sur leur tombe, et dans la mort, ils restèrent unis, ça ne veut pas dire qu'ils sont morts ensemble. Je crois plutôt qu'ils sont désormais bel et bien unis. Je crois qu'ils se sont rejoints par la suite. Eux deux qui s'aimaient très fort, et ma pauvre tante à laquelle je m'efforcerai de penser avec plus de bienveillance, désormais. Ma pauvre tante n'a pas eu à souffrir d'un geste qu'elle n'avait sans doute pas pu contenir. Remarquez, ajouta Célia, retrouvant tout à coup son ton habituel, ce n'était pas quelqu'un d'aimable. On ne peut pas se forcer à aimer les gens s'ils ne sont pas aimables. Peut-être qu'elle aurait pu être différente, à condition d'essayer, et peut-être qu'elle n'y est pas arrivée. Auquel cas, il faut penser à elle comme à quelqu'un de très malade. Par exemple, comme le pestiféré d'un village qu'on ne laisse pas sortir, qu'on ne nourrit pas, qui ne peut pas se mêler aux autres parce qu'alors tout le village risquerait d'être atteint de la peste. Mais je vais m'efforcer d'éprouver de la compassion pour elle. Quant à mon père et à ma mère, je ne me tracasserai plus à leur sujet désormais. Ils s'aimaient tant, et ils aimaient la pauvre, la malheureuse Dolly, pleine de haine. Je crois, Célia, déclara Desmond, que nous ferions bien de nous marier le plus vite possible à présent. Mais il y a en tout cas une chose que je peux te promettre. Ma mère n'entendra jamais un mot de tout ça. Ce n'est pas ma vraie mère, et pas non plus quelqu'un à qui je peux confier ce genre de secret. J'ai de bonnes raisons de penser que votre mère adoptive, Desmond, enchaîna Poirot, tenait à s'immiscer entre Célia et vous, et si possible, à vous mettre dans la tête l'idée que votre fiancé risquait d'avoir hérité de son père ou sa mère je ne sais quel effroyable trait de caractère. Cependant, et vous ne le savez sans doute pas encore, mais je ne vois aucune raison de ne pas vous en informer, vous allez, le jour de vos 25 ans, hériter de celle qui fut votre vraie mère, et qui est morte il n'y a pas très longtemps, en vous léguant toute sa fortune, qui était considérable. C'est là une excellente nouvelle, car puisque j'épouse Célia, nous aurons besoin de cet argent pour vivre, déclara Desmond. Et je comprends parfaitement que vous ayez songé à me mettre en garde. Je sais que ma mère adoptive a toujours été à la fois très âpre au gain et terriblement dépensière, au point qu'il m'arrive déjà d'être souvent obligé de lui prêter de l'argent. Elle était même allée, il n'y a pas bien longtemps, jusqu'à insister pour que j'aille voir un notaire, parce qu'il était d'après elle très dangereux, maintenant que j'ai plus de 21 ans, de ne pas avoir de testament. Je suppose qu'elle s'imaginait récupérer l'argent placé pour moi lors de mon adoption. Et j'avais en effet songé à lui en laisser la quasi-totalité. Mais bien sûr, maintenant que Célia et moi avons décidé de nous marier, tout ira à ma femme. Qui plus est, je n'ai pas aimé la façon dont cette femme a tenté de me dresser contre Célia. Je crois que vos soupçons sont entièrement fondés, confirma Poirot. J'ai la conviction que votre mère adoptive avait réussi à se persuader que ses intentions étaient bonnes, que l'atavisme de Célia était quelque chose dont vous deviez avoir connaissance, parce qu'il y aurait eu un risque à encourir. Mais... D'accord, coupa le jeune homme, oh je sais. Je manque de bienveillance. Après tout, Elle m'a adopté, élevé et tout ce qui s'ensuit, et je crois que s'il y a de l'argent en suffisance, j'en placerai un peu à son nom. Célia et moi garderons le reste et nous allons vivre très heureux. Après tout, certains souvenirs nous attristeront peut-être de temps en temps, mais nous ne nous tracasserons plus, n'est-ce pas, Célia ?
Non, promit la jeune fille, plus jamais. Je crois que mon père et ma mère étaient des gens assez extraordinaires. Maman s'est efforcée toute sa vie de veiller sur sa sœur, mais c'était sans doute sans espoir, ou presque. On ne peut pas empêcher les gens d'être ce qu'ils sont.
Ah, mes chers enfants, fit Zélie, pardonnez-moi de vous appeler ainsi alors que vous n'êtes plus des enfants, mais un homme et une femme accomplis, je le sais bien. Je suis tellement heureuse de vous revoir et de savoir que mes agissements ne vous ont causé aucun tort.
Vous ne nous avez causé aucun tort, et c'est un tel plaisir de vous revoir, chère Zélie.
Célia rejoignit Mademoiselle Moura et la serra dans ses bras.
J'ai toujours eu une affection débordante pour vous, reprit la jeune fille.
Moi aussi, à l'époque où je vous ai rencontré, ajouta Desmond, quand j'habitais à côté de chez vous. Vous connaissiez de très jolis jeux et vous jouiez si souvent avec nous.
Le jeune couple se tourna vers la romancière.
Merci, Madame Oliver, déclara Desmond avec émotion. Vous nous avez témoigné beaucoup de gentillesse et vous avez dépensé quantité d'énergie, je le vois bien.
Merci aussi à vous, Monsieur Poirot.
Oui, merci, fit à son tour Célia. Je vous suis très reconnaissante.
Ils s'éloignèrent, tandis que les autres les suivaient des yeux.
Eh bien, s'écria Zélie, il faut que je m'en aille à présent. S'adressant à Poirot, elle ajouta,
et vous?
Y a-t-il quelqu'un à qui vous raconterez tout ceci?
Il y a une personne à qui je confierai peut-être cette histoire sous le sceau du secret. Un officier de police honoraire. Il n'exerce plus désormais. Il s'est complètement retiré du service.
Il ne considérera pas de son devoir de se repencher sur ce que le temps a effacé.
S'il était toujours en service actif, ce pourrait être différent.
C'est une histoire effroyable, frissonna Madame Oliver. Effroyable. Et tous les gens auxquels j'en ai parlé...
Oui, je m'en rends à présent bien compte. Tous se souvenaient de quelque chose.
Quelque chose qui a permis d'établir la vérité, même si l'entreprise s'est révélée difficile.
Sauf pour M. Poirot, qui parvient toujours à relier entre eux les éléments les plus incongrus qui soient. Comme perruque et jumelles, pour ne citer que ces deux-là.
Poirot vint auprès de Zélie qui debout contemplait le large.
« Vous ne m'en voulez pas, demanda-t-il, d'être venu vous trouver et de vous avoir convaincu de faire ce que vous venez de faire ?»«
Non, j'en suis heureuse. Vous aviez raison. Ils sont vraiment charmants, ces deux petits, et ils vont bien ensemble, je trouve. Ils seront heureux. Nous nous tenons là où deux amoureux vécurent jadis, là où deux amoureux trouvèrent la mort. Mais je ne blâme pas Alistair de son geste. De sa part, c'était peut-être mal agir, mais je ne peux pas l'en blâmer. Ce fut un geste courageux, je crois, même si ce n'était pas un bon geste.
Vous aussi aimiez le général, n'est-ce pas ? Demanda Hercule Poirot.
Oui, depuis toujours, je vous l'ai déjà dit. Dès que j'ai franchi le seuil de la maison, je l'aimais tendrement. Je ne pense pas qu'il l'ait su. Il n'y a jamais rien eu, comme on dit, entre lui et moi. Il me faisait confiance et m'appréciait.
Oui, je les aimais tous les deux, Margaret et lui.
Il y a une question que j'aimerais vous poser. Le général aimait Dolly aussi bien que Molly, n'est-ce pas ?
Jusqu'au bout, il les a aimées toutes les deux.
C'est pourquoi il avait accepté de sauver Dolly. Et pour cela aussi que Molly le lui avait demandé. Laquelle des deux sœurs il aimait le plus ? Je me le demande. C'est une question qui ne connaîtra sans doute jamais de réponse, conclut Zélie.
Je ne l'ai jamais su, et je ne le saurai jamais.
Poirot la fixa un instant du regard, puis il se détourna et rejoignit Madame Oliver.
Nous allons rentrer en voiture à Londres. Il nous faut regagner la vie quotidienne, oublier les drames et les affaires de cœur.
Les éléphants n'oublient rien, affirma Madame Oliver pensive. Mais nous sommes, vous et moi, des humains. Et les humains, Dieu merci, possèdent une immense faculté d'oubli.